Voilà, gloire à Dieu. Eh bien, on va ouvrir, pardon, sans tarder la parole de Dieu, la Bible. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 1er. Voilà, gloire à Dieu. Jean chapitre 10, verset 1er. Voilà, nous lisons ceci. En vérité, dit Jésus, celui qui n'entre pas, par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On chante quelques versets, verset 27. Jésus continue et dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. » Le Seigneur va prendre l'image d'une brebis pour parler de nous. Et lui, il se positionne avec une autre image, celle du berger. Alors, on risque de me répéter, c'est intéressant de regarder comment un berger s'occupe de ses brebis. Alors, je n'en ai pas trop vu dans le Tarn des bergers. Il y en a certainement. Mais quand j'étais dans les Pyrénées, il y en avait beaucoup plus que dans le Tarn. Et effectivement, c'est intéressant de regarder comment ils s'occupent de leurs brebis. Et un berger qui s'occupe de ses brebis, on a l'impression que les brebis, elles sont livrées à elles-mêmes. Il est là, dans son coin, il est appuyé sur son bâton, contre un arbre, peu importe. On a l'impression qu'il ne s'en occupe pas, mais il s'en occupe. Et les brebis, on a l'impression qu'elles sont à droite, à gauche, qu'elles vont un peu partout et nulle part en même temps, mais elles ont toujours un regard sur le berger et toujours à l'écoute d'un son qu'elles connaissent, d'un bruit qu'elles connaissent, de la voix du berger qu'elles connaissent. M'est arrivé, moi, d'arriver là et d'appeler les brebis. J'ai dit, je vais faire une expérience. J'ai appelé les brebis. Je leur ai dit, venez. Venez. Pensez-vous. C'est comme s'il n'y avait personne. Par contre, quand le berger les a appelés avec un son, un bruit, sa propre voix, elles sont toutes arrivées. Elles reconnaissent la voix du berger. Elles ont l'habitude de l'entendre. il en est le propriétaire. Et elles savent qui est le maître. En définitive, Jésus veut nous montrer par là que lui-même fait retentir sa voix. Suis-je capable de reconnaître la voix de Jésus parmi des milliers d'autres voix? Des voix foisonnent de toutes parts. Toutes ces voix dans ce monde, eh bien, résonnent pour faire entendre des tas de choses. Mais en définitive, Jésus est venu, lui, le Fils de Dieu, envoyé du Père, pour faire entendre la voix, sa voix. Et je vais jouer un peu sur les mots, la langue française nous l'autorise, alors je vais en user. En définitive, il y a un autre verset qui m'intéresse, qui est relié à celui-ci, du moins je le crois, c'est le chapitre 14 de l'évangile de Jean, et précisément le verset 6. Quand Jésus va dire de lui-même, eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est lié à la lecture que nous venons de faire, Jean chapitre 10. Et je reste sur ce mot, la voix. Et je dis, j'allais jouer un peu sur ce mot avec la langue française, puisqu'elle nous l'autorise, du moins par le son, non pas par l'orthographe en soi-même, mais le son. Le mot « voix » qui s'exprime est le mot « voix » sur lequel je dois marcher. Ou sur laquelle, pardon, je pensais au chemin, sur laquelle je dois marcher. En définitive, quand Jésus va dire « je suis le chemin », je vais jouer sur les mots, « je suis la voie ». Je suis celui qui t'appelle, si tu m'entends, m'écoute et reçois mon message de vie, de grâce, de salut, de guérison, d'édification, alors tu ne te perdras pas, tu ne t'égareras pas. Tu retrouveras toujours, ou tu trouveras toujours, si tu le veux, si tu écoutes le bon berger, Jésus, la bergerie. La voix exprimée, qui exprime la vérité, en opposition, dit Jésus, avec celui qui n'est qu'un brigand, celui qui n'est qu'un mercenaire, celui qui ne vient pas pour dire la vérité, mais qui vient avec une vérité qui est en définitive déguisée dans le cadre d'un mensonge, un mensonge déguisé dans le cadre d'une vérité. Bref, il vient avec la séduction. Mais quelqu'un qui est véritablement dans une position de brebis spirituellement, qui est prêt à écouter non pas n'importe quoi et n'importe qui, mais écouter Jésus, alors il est sûr d'entendre la voix de la vérité et d'être sur le chemin de la vérité qui conduit au Père. Alléluia. Seuls ceux qui ne veulent pas, seuls ceux qui n'ont pas voulu, ou seuls ceux qui ne voudront pas accueillir l'amour de la vérité qui est exprimée par la voix de Christ, parlée par le chemin de Christ sur lequel il se tient lui-même, par son esprit, finissent par croire à toutes sortes de mensonges, de fausses doctrines, et ils s'égarent, et ça devient une catastrophe. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Je suis la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer le Père. Et Jésus l'a dit. Nous l'avons lu tout à l'heure. Moi et le Père, nous sommes un. Et aimer donc la vérité, c'est aimer Jésus, c'est aimer le Père. Donc, aimer la vérité, être à l'écoute de cette voie de vérité, être sur ce chemin de vérité, tracé par le Seigneur, tracé par l'œuvre de la croix, où tout a été accompli, c'est un gage de sécurité. Alléluia. Le problème, c'est comment je considère Jésus. Est-il pleinement, est-il totalement, est-il profondément mon berger? Ou est-ce que je m'octroie quelques libertés en disant, bien tiens, je vais sortir de l'enclos, je vais aller gambader à droite, à gauche. Là, je me mets en danger. Parce que, et j'y reviendrai le jour, en deux dimanches, où je prêcherai sur le psaume 23, mais à partir du moment où je sors de cette protection du berger, je me mets en danger par rapport à celui qui est le loup ravisseur, le diable. C'est un gage de sécurité. Dans le psaume 19, verset 8, la traduction français courant, je la cite, pour ceux qui ont d'autres traductions, nous dit « La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend, et j'aime cette traduction-là, elle rend la force de vivre. » Amen. En définitive, quand on regarde d'un peu plus près ce que ici le psalmiste souligne, il va parler de la loi, du témoignage, des ordonnances, il parle de la parole de Dieu sous différentes appellations, les ordonnances, les commandements, etc. En définitive, quand il parle de la loi, c'est un terme qui est tout à fait... c'est une généralité, quelque part, c'est un terme général qui va désigner la volonté révélée de Dieu, qui est de nous rappeler que son désir, c'est que nous ayons une relation étroite et intime avec lui. Comment retrouver la force de vivre s'il n'y a pas cette intimité, cette relation avec le berger, avec la vérité, pour l'accepter dans sa totalité? Elle rend la force de vivre. Traduction Louis II classique, elle dit « restaure l'âme ». Elle restaure, elle renouvelle, elle fortifie, elle me donne du courage. Jésus est cette parole qui restaure. Il est la vérité qui restaure. Et je dois, dans ces temps qui sont, eh bien, nous devons, dans ces temps qui sont les nôtres, être très attachés à cela, plus que tout. Sinon, eh bien, je vais partir à droite, à gauche. Je vais aller ici et là. Je serai un coup dans la maison de Dieu, un coup j'y suis pas. Un coup je sers Dieu, un coup je le sers pas. Je vais être une véritable girouette. Et il y a bien une chose qui est terrible pour un chrétien, c'est de devenir une girouette. Vous avez vu les girouettes? Vous savez ce que c'est une girouette? On en trouve sur les clochers des églises, on en trouve sur des clochers de mairie, on en trouve où vous voulez. Bref, une girouette, elle va donner le sens du vent. Mais le problème d'une girouette, c'est qu'elle va tourner. Elle va tourner en fonction du vent qui souffle. Et un chrétien qui est une girouette, parce qu'il ne s'attache pas au berger, à la vérité, à son chemin, c'est quelqu'un qui va en fonction du vent qui souffle. Aujourd'hui, je veux suivre la voie du Seigneur, et puis hop, le vent tourne, et là, demain, je veux suivre autre chose. Aujourd'hui, je suis là, et puis demain, je suis pas là. Aujourd'hui, je suis prêt à bénir Dieu parce que tout va bien, et puis là, ça va mal, donc je bénis pas Dieu. C'est un chrétien girouette. Et que Dieu fasse que dans nos assemblées, dans nos églises, dans les temps qui sont les nôtres, il n'y en ait aucun d'entre vous, je parle de Groyer, devienne des chrétiens girouettes. Quand on est attaché au berger, le berger nous montre le chemin que la brebis doit suivre. Le berger va donner l'impulsion. C'est lui que nous devons suivre. Et là, on n'est pas des girouettes. La loi du Seigneur, elle restaure. Elle rend la force de vivre. Ça me fait penser à ce témoignage transmis par un de mes collègues. Ils étaient en train de poser du carrelage dans l'église où il était. Et puis est arrivé, donc c'est dans le secteur de Marseille, est arrivé un homme qui habite Marseille, le frère en question, lui, pasteur à l'extérieur de Marseille, dans une autre église. Et il dit, écoutez, je suis carreleur, il n'y a pas de problème, si vous voulez un coup de main, je vous donne un coup de main pour poser le carrelage, etc. Donc c'était un peu le rentre dedans, le bon Marseillais. Par contre, il dit, moi je suis pas du tout chrétien, je crois pas en Dieu, ne me cassez pas les pieds avec ces choses-là. Et il rajoute, et il dit, une fois que j'ai posé le carrelage, si j'en vois un marcher sur le carrelage, je lui jette le marteau dans la figure. Ça commence bien. Très sympathique. Voilà que mon collègue, sans faire exprès, marche sur le carrelage. Et d'un seul coup, il entend « vouf ». Le marteau qui est passé pas loin de la figure et qui est allé se planter dans le mur. À ce moment-là, mon collègue a une bonne réaction. Il penche la tête et il dit « Seigneur, touche-le avant que je le touche. » Et tout en priant comme cela, il est allé dans son bureau et il s'est jeté à genoux. Il a dit « Seigneur, fais quelque chose. Interviens. » Et à ce moment-là, au même moment où il est en train de demander ça au Seigneur, parce qu'il est attaché au berger, parce qu'il est attaché à la voie de la vérité, parce qu'il est attaché à celui qui peut conduire parfaitement dans le sens de sa parole, qui restaure, qui fortifie, qui dirige. Merveilleusement, il entend le Seigneur lui dire « Tu retournes dans le lieu de culte et tu dis à cet homme « La mare au canard. » Écoutez bien le témoignage. Je vous assure, c'est vrai. Et alors, à ce moment-là, il dit, Seigneur, mais je comprends pas. Alors, il va dans la salle. Et il arrive vers le bonhomme, marseillais, là, un peu pénible. Et il lui dit, la mare au canard. Mais quand il lui dit ça, mon collègue, explique, à ce moment-là, il transpire des gouttes comme ça, parce que je dis, mais c'est pas possible de dire une chose pareille. La mare au canard. Il lui dit la mare au canard. Et au moment où il lui dit ça, le bonhomme en question, un gars costaud, dur, pénible, mais obstiné, bref, vous avez compris, hein, pour jeter un marteau, bon. À ce moment-là, il tombe à genoux, et il se met à pleurer. Et le collègue le regarde, il dit, ça va pas? Il dit, écoutez, monsieur le pasteur, tout en pleurant, hein, à genoux. Il dit, ça fait des années en arrière, il y a des années en arrière, quand j'étais avec mes parents, on était plusieurs à la maison, des enfants, frères, des sœurs. Et on vivait dans la pauvreté extrême. Et là, les parents nous amenaient une louche avec de la soupe et on mangeait tous dans la même louche. Et un jour, alors que j'étais là à l'extérieur et que j'étais en train de réfléchir, de me demander « mais qu'est-ce que je fais là ?», de se poser les fameuses grandes questions de la vie, j'ai voulu me noyer dans la mare au canard. J'ai voulu arrêter ma vie, supprimer ma vie. Et j'ai crié vers Dieu, là, près de cette mare au canard, avant d'y aller. J'ai dit, si tu existes, révèle-toi à moi. Et Dieu a fait le miracle. Je passe tous les détails. Dieu est intervenu et a secouru ce garçon. Seulement avec le temps, il a oublié Dieu. Avec le temps, il a mis Dieu de côté. Avec le temps, il a choisi non pas de suivre le berger, la voie de la vérité, celle exprimée, le chemin ouvert de grâce, de salut, qui venait de lui être ouvert. Miraculeusement, Et là, plusieurs années après, il se retrouve dans cette église pour proposer ses services, et c'est là qu'il tombe à genoux. Pourquoi ? Parce que mon collègue, comme normalement tout chrétien, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu devrait le vivre dans le cadre des dons spirituels, à ce moment-là, il dit quelque chose qui paraît fou pour ses yeux sur le plan humain, mais ce n'est pas fou aux yeux de Dieu parce que ça va toucher le cœur de ce garçon. Mes frères et sœurs, nous devons veiller à ne pas vivre en deçà de la puissance de Dieu. Je trouve qu'il y a trop d'églises aujourd'hui qui ont tendance à mettre le pied sur le frein par rapport à l'action du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, à la manifestation de la gloire de Dieu. Et je ne veux pas que dans cette église, tant que je serai le pasteur, qu'on tombe dans ce piège. Non, je veux pas. Et quand je dis « je veux pas », je prie. Il est certain que certains finiront à un moment donné par être dérangés. Parce que je suis un homme de l'esprit et je le revendique. Je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Je crois dans la présence du Saint-Esprit. Je crois dans l'onction du Saint-Esprit. Je crois dans les dons spirituels. Je les vis, je les réclame à Dieu et vous devez les vivre. Ce matin, je devais prêcher sur la plénitude du Saint-Esprit. J'ai mis ça de côté, il est là mon ordinateur. Paf. J'ai pris autre chose, Dieu m'a mis autre chose à cœur. C'est ça. Jésus parle. Ce que dit le Seigneur Jésus, ce qu'il veut, ce qu'il ordonne, c'est bon. C'est sûr. C'est entièrement, mes frères et sœurs, adapté à mon attente profonde. De plénitude, oui le mot est là, il est excellent, de plénitude dans ma vie tous les jours. Est-ce que je suis réellement, j'anticipe déjà sur ce message que j'apporterai plus tard, est-ce que je suis réellement dans cette plénitude spirituelle ou est-ce que peut-être ce matin je suis comme un torrent complètement asséché, à sec. Sec. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui est devenu sec. Un chrétien qui est sec n'arrive plus à louer Dieu. Un chrétien qui est sec n'arrive plus à se tenir dans la présence de Dieu. Un chrétien qui est sec n'arrive plus à servir le Seigneur. Un chrétien qui est sec, il considère la maison de Dieu comme étant secondaire. Nous devons veiller là-dessus. Et le seul moyen pour ne pas être sec ou de devenir sec, c'est de revenir vers le bon berger. Le psaume 23, j'ai dit qu'on le verra en deux parties plus tard, dans le courant de l'année 2018. Mais il nous conduit où ça ? En Jésus-Christ. Il nous conduit où ça ? Dans de verts pâturages. C'est pas la sécheresse des verts pâturages, à ce que je sache. Il nous conduit où ça ? Près des eaux paisibles, tranquilles. Et j'évoquerai bien d'autres détails dans le psaume 23 qui nous interpelleront sur le plan de l'action du berger, mais aussi de la brebis vis-à-vis du berger. J'en parle déjà ce matin parce que, après tout, c'est très important. Jésus, sa voix, son chemin, ce qu'il dit également, c'est la vérité par excellence. Dieu est esprit, nous dit la Bible. L'esprit de vérité est là, dans mon cœur. Et l'esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fait ? Il me conduit dans toute la vérité. Il ne va pas me conduire vers des doctrines bizarres, vers des idées bizarres. Il me conduit dans la vérité. Donc il me conduit vers qui ? Vers Jésus. Il me ramène vers Jésus. Il me réaiguille vers Jésus. Je me laisse conduire, je me laisse attirer, je me laisse remplir, je me laisse toucher, je me laisse interpeller, je me laisse conduire pour obéir au Seigneur et lui dire « Seigneur, prends ma vie, ce que je suis est à toi ». Ce ne sont pas que des mots, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un vécu. Jésus va dire dans sa prière sacerdotale au Père, « Père, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Sanctifie-les, mets-les à part pour toi. Mais fais-le par ta parole, parce qu'il n'y a qu'elle, par cette voix, cette expression verbale, la vérité de Dieu, la parole de Dieu qui est permanente, vivante, qui est esprit et vie, à qui n'est pas liée. Quand je la reçois, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je suis attiré vers lui. Pour lui dire, Seigneur, je suis à toi. C'est Martin Luther, ce réformateur, qui a dit ceci, je le cite, « Entendre l'Écriture, ce n'est rien d'autre que d'entendre Dieu. » Ce matin, ce n'est pas la voix du pasteur que vous entendez, si vous l'avez compris comme cela. C'est de la part de Dieu que je vous prêche la parole. Vous la recevez, vous la recevez, vous la recevez pas, vous la recevez pas. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais nous avons compris, nous comprenons que connaître Jésus, c'est connaître la vérité. Si le Christ, qui est la vérité, vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Il n'y a pas longtemps, une sœur, je crois que c'est vendredi, ou je ne sais plus quand, mais elle m'a dit, mais mon époux, il bloque parce que il a l'impression que s'il vient à Jésus, il perd sa liberté. Vous vous rendez compte comment le diable transforme, je vais perdre ma liberté. Ça veut dire quoi ? Perdre ma liberté. Mais je comprends qu'ils ne comprennent pas. Il n'est pas encore éclairé. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et j'en rencontre des dizaines et disent, oui, mais vous comprenez, si je viens dans votre église, je vais perdre ma liberté. Mais votre liberté de quoi ? Expliquez-moi. En définitive, c'est quoi pour eux la liberté ? La liberté de ne plus pouvoir mentir. Parce qu'ils savent, hein. Vous savez, quand vous avez le livre des Actes et que l'évangile était prêché là, au portique de Salomon, il est écrit que les gens de l'époque, quand ils entendaient la prédication de l'évangile, ils voyaient des conversions, il y en avait quelques-uns qui n'osaient pas se joindre à eux, parce qu'ils savaient que s'ils se joignaient à eux, il y avait des choses qui allaient changer. Et comme ils aimaient leurs péchés, comme ils aimaient leurs mensonges, comme ils aimaient leurs iniquités, comme ils aimaient leur histoire, eh bien, ils ne venaient pas. Ils sont honnêtes. Ce qui est malhonnête, c'est d'être dans l'église et de faire croire que. Ça, c'est grave par rapport à Dieu parce qu'il voit tout. Et puis ça finit par se mettre en pleine lumière. Quand on n'est pas vrai, quand on n'est pas honnête, quand on n'est pas sincère, quand on n'est pas droit, attaché à la parole de Dieu, à un moment donné, eh bien, ça va se manifester, ça va se révéler non pas pour nous faire du mal, mais parce que Dieu veut nous sortir du pétrin dans lequel nous sommes. Et donc, Jésus, l'Esprit de Jésus, nous conduit dans la vérité. C'est l'ange Gabriel a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Et le nom de Jésus en hébreu, ça veut dire, on le prononce ainsi, pardon, on dit Yeshua. Et ce nom de Jésus en hébreu, Yeshua, dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons 77 fois. Alors, si vous vous ennuyez, si vous dormez mal une nuit, vous pouvez compter. Bon, maintenant, il faut que vous ayez une connaissance en hébreu, que vous ayez une Bible, du moins un Ancien Testament, traduit en hébreu. 77 fois. Et quand on regarde la signification de ce nom, Yeshua en hébreu, ou traduit par Jésus, la signification, c'est le salut. On va dire, ah, vous parlez du salut même lors des cultes ? Oui, j'en parle de cultes et je n'ai pas fini d'en parler. Le salut. Il y a un psaume qui me fait toujours du bien quand je le lis, parce qu'il nous parle d'espérance. C'est le psaume 42, des fils de Corée. Et au verset 12, il est écrit... Pourquoi t'abattu, disent-ils les fils de Corée, pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? La question est posée, ils se la posent, sur le plan de leur humanité, et là, ils réagissent bien, ils disent, espère en Dieu. Car je le louerai encore, est-ce que vous avez loué le Seigneur ce matin encore ? Hein ? Est-ce que vous avez pris votre place ? Je le louerai encore, et il rajoute, il est mon salut et il est mon Dieu. Si je prends la traduction littérale, c'est qu'il est mon Yeshua, en hébreu. Il est mon sauveur, mon libérateur, mon rédempteur, le rocher de mon salut. On trouve beaucoup d'expressions qui ne sont donc notées à la suite de cela. Il est mon salut. Et ce salut, qui est en Jésus-Christ, qui est la voie de la vérité prononcée, ouverte, le chemin, ce salut est, se traduit par le fait que l'on sait que Dieu entend, puisqu'il pose la question, mais en même temps Dieu entend, et que ses promesses restent stables comme le roc. Les fils de Corée, verset 10, disent « Je dis à Dieu, mon rocher. » Amen. Mon rocher. Mon rocher. Il ne dit pas « Mon Dieu, mon morceau de sable. » Le sable, un coup de vent, il n'y en a plus. Mon rocher. S'il y a bien quelque chose de solide, c'est bien un rocher. Pourquoi m'oublies-tu? Il fait monter cette prière. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, etc. Et puis on vient de lire, espère en Dieu, je le louerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Il reste stable. Alors il va exprimer, donc effectivement, Corée, les fils de Corée vont exprimer leurs angoisses, leurs peurs, leurs doutes. Vous relirez le psaume 42. Mais ils vont entrer de nouveau dans la paix de Dieu, dans cette vérité qui produit la paix. Et Paul l'a dit, que la paix qui surpasse toute intelligence, tout ce qui peut s'exprimer intelligemment sur la terre, ça va bien au-delà, la paix du Seigneur. C'est pas un mot, c'est pas un mot dans une doctrine biblique seulement, c'est une vérité, ça a un parfum, ça a une expression, c'est quelque chose de tangible, c'est comme Dieu qui est comparé à ce rocher, il y a quelque chose de solide. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dans la vérité, dans cette voie exprimée par l'évangile de la vérité qui apporte le salut et la guérison à quiconque croit et reste attaché à Jésus, amen, le bon berger de mon âme, qui me conduit sur le chemin de la vérité, qui me conduit, lui, au ciel, non pas en enfer, ça, c'est tous les chemins, toutes les voies que propose le diable dans ce monde, non, il n'y a qu'un seul chemin, oui, ça paraît exclusif, mais c'est une réalité, c'est pas ma faute, c'est Dieu qui le dit, moi je préférerais vous dire, il y a 3 chemins, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20, non, il n'y en a qu'un. Je suis désolé, il n'y en a qu'un. Un jour, quelqu'un me disait, mais quand même, vous êtes un peu dur. Il n'y en a qu'un. Pourtant, il y a une expression qui dit que tous les chemins mènent à Groyer. C'est pareil. Il n'y en a qu'un seul qui mène au ciel. C'est Jésus. C'est sa vérité. C'est son chemin qui nous est ouvert. Et ils entrent dans la paix. Mais non seulement ils entrent dans la paix, mais ils vont pas rester seulement dans cette paix-là, ils vont aller beaucoup plus loin que ça, ils vont entrer dans la louange. Il faut avoir la soif de Dieu, c'est ce que disent les fils de Corée. Mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif, ô mon berger, elle a soif de toi, qui es le Dieu vivant, j'ai soif de toi, j'ai faim de ta présence, je soupire après toi, je suis une brebis, ma seule sécurité c'est toi, le seul qui me conduire dans ce qui est bon, ce qui rafraîchit, ce qui restaure, ce qui renouvelle, ce qui m'édifie, ce qui me permet d'aller de victoire en victoire, c'est toi et personne d'autre, Jésus. C'est pas une ambiance, c'est pas des idées qui circulent sur Internet, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Christ, loin de l'Éternel, qui est au milieu de nous. Oh, je le redirai encore et encore, et je m'en lasserai pas, même si je restais ici 50 ans, je continuerai à le dire. Il est mon sauveur. Il est le vôtre. J'ai soif de Dieu. Qui c'est qui a soif de Dieu? Voilà, des mains se lèvent, mais même si vous n'avez pas levé la main, je suis sûr que vous êtes d'accord. Peut-être quelqu'un qui dit, non, moi j'ai soif vivement de rentrer à la maison parce que j'ai mon rôti qui est en train de cramer. Oui. J'ai soif. Non, j'ai soif d'aller au café à côté pour prendre mon apéritif. J'ai soif, je le dis avec une certaine légèreté, mais en définitive, c'est sérieux. Vous me comprenez? J'ai soif. Vous avez soif de quoi? Ah, ça fait du bien de boire. C'est de l'eau, hein? Ça fait du bien de boire. Ça m'a fait du bien. Je suis reparti pour une heure. Et j'ai vu qu'il y a une sœur qui m'a suivi. Ça lui a donné un. Hein, vous avez bien fait. Ça fait du bien. Il faut se réhydrater. C'est bon pour la santé. De boire de l'eau. Et la Bible nous parle que Jésus est une eau vive. Amen. C'est le berger près des eaux paisibles, des eaux vives. Le salut. Le monde a soif de pouvoir. C'est pas vrai? Le monde a soif d'argent. Le monde a soif des honneurs. Le monde a soif. Et puis, ce mot, je terminerai là-dessus, nous parle Yeshua, Jésus, le bon berger, la vérité exprimée, la vérité ouverte, voie de vérité par ce chemin qui nous a ouvert, nous parle de délivrance. Et dans le psaume 18, j'y reviens, psaume 18, verset 51, je lis ceci avec vous. L'Éternel, le Seigneur, accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Vous avez l'idée de délivrance, grande délivrance. Il accorde pas de petites délivrances. Il dit pas des délivrances, c'est déjà pas mal. Mais il dit de très grandes délivrances. Et vous allez me dire, ou peut-être vous dire en vous-même, mais en quoi j'ai besoin de délivrance? Oh, s'il vous plaît. Je suis convaincu que si vous cherchez bien avec honnêteté, vous allez vous rendre compte que vous en avez certainement besoin ce matin. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un jugement. C'est pour vous faire réfléchir et vous faire aller plus loin et de sortir de ce lieu de culte heureux. Alors je termine parce que, juste avec cet exemple, je ne m'y étendrai pas, mais je cite deux ou trois choses. Quand je prends la traduction Yeshua par rapport au mot délivrance dans l'Ancien Testament, particulièrement ici et dans d'autres textes, il est question de délivrance, mais il y a un autre mot qui ressort. C'est lié. C'est le mot miracle. Et c'est un mot que j'aime. Parce que le temps des miracles, il n'est pas passé encore à grouiller. Non mais je dis ça parce qu'il y en a certains qui disent « Oh mais maintenant, à quoi ça sert ?» Malheureusement, c'est grave de parler comme ça. Le temps des miracles n'est pas passé. Vous y croyez au miracle? Regardez. Mais pas seulement. Je pourrais vous montrer. Je me montre parce que vous me voyez. Mais nous sommes, je le mets au pluriel, le fruit d'un miracle. Souvenez-vous où vous étiez avant. Et regardez où vous êtes ce matin. Pardon? Pour moi? Ah oui. Ah mais tu as raison en plus. Non, est-ce qu'il dit pour moi c'est un grand miracle? Mais il a raison. Bah, vous connaissez mon témoignage. Oui, je confirme. Parce que normalement je devrais être mort et enterré depuis longtemps, quoi. Et certainement d'autres ici aussi. Par leur folie, leur erreur, par le fait qu'ils étaient séduits par le diable, etc. Qu'ils ne marchaient pas dans la vérité avec le bon berger, avec Jésus. Mais c'est un grand miracle. Et toi aussi, d'ailleurs. Quand je vois les photos des années 70, tu m'as cherché. Non, mais je t'aime. On se le dit souvent, hein, et c'est vrai en plus. C'est pas un mot, hein, c'est vrai. Et je prends juste un exemple que vous connaissez, juste, c'est pas pour rallonger le message, mais j'aime bien citer des exemples bibliques tout de même. C'est l'histoire de Marc 10, verset 46, et verset qui suivent, c'est Bartimée. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire avec Bartimée. Mais en définitive, on voit plusieurs choses. Il est assis au bord du chemin, il a besoin de délivrance, il a besoin de salut, il a besoin d'un miracle, il a besoin de qui ? Il a besoin de Jésus. Les pharisiens ne peuvent rien, les sacrificateurs ne peuvent rien, la religion donc ne peut rien, mais Jésus peut quelque chose. Amen. Et donc, ouais, là, il est assis au bord du chemin, il est marginalisé, il a un handicap qu'il a rejeté aux marges de la société, qu'il a rendu passif, dépendant. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est le fils de Timée, et Timée, ça veut dire, ça signifie Timée, son papa s'appelait ainsi, Timée, ça veut dire honneur. Son ancêtre est peut-être quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui était honoré, quelqu'un de haut placé, je ne sais, mais ça n'enlève pas le fait que cet homme a besoin d'entendre Jésus lui dire « Que veux-tu ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et le Seigneur ce matin, et c'est là où j'en arrive à la fin de mon message, c'est de vous poser la question, si vous le considérez comme berger, il vous fait entendre la même question que celle posée à Bartimée, parce que Jésus, c'est le salut, c'est le miracle, c'est la délivrance, c'est la vérité. Bref, c'est tout ce dont nous avons besoin spirituellement dans notre âme. Et il vous dit, à chacun individuellement, même des chrétiens de longue date, arrêtez avec ça. Pas parce que ça fait 40 ans que vous marchez avec Dieu, hein, que vous n'avez pas besoin d'entendre cette question, parce que vous n'êtes pas encore arrivé. Hein, et moi avec. Donc, il vous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ça, c'est important. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, quelqu'un va dire, « Bien Seigneur, si tu me permettais d'avoir une belle maison, un beau mari, une belle voiture, tout est beau, hein, une belle voiture, des beaux costumes, des belles chaussures, enfin, tout est tout beau, c'est, Seigneur, voilà, tout ça. » Alors là, vous vous trompez. Vous avez rien compris. Le bon berger n'est pas venu pour nous donner une belle maison, une belle voiture, une belle montre, des belles chaussures, tout ce que vous voulez dans le terme beau. Mais il est venu, pour vous accorder une délivrance, le salut, la grâce pour votre âme, l'espérance de la vie éternelle, la joie de le servir, la joie d'être ses enfants, la joie de faire sa volonté. En définitive, il veut toucher votre cœur en vous disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et il attend de votre part que vous lui disiez « Seigneur, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est que je puisse tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je veux t'aimer réellement, profondément, jamais t'abandonner, jamais te tourner le dos, m'attacher à tes pas, faire ta volonté, obéir à ta parole, être en règle avec toi, être irréprochable. » Alléluia. Pas infaillible, mais irréprochable. C'est ça que vous allez lui demander ? Amen. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a enlevé son manteau.
Pardon ? Il l'a jeté. Il s'est défait de son passé. Et il a dit maintenant, j'entre sur le chemin de la vérité. J'entre dans la vérité qui va me sauver, me libérer, qui me met à part pour Dieu. Maintenant, j'entre effectivement avec lui sur ce qu'il veut me donner, c'est-à-dire sa présence, sa personne. Et en même temps, cerise sur le gâteau, le miracle, la guérison, le rétablissement, car c'est comme ça que Dieu agit. La première des choses que Dieu veut toucher, c'est votre cœur. La deuxième chose que Dieu touchera parce que vous resterez dans la foi en Dieu, c'est votre corps. Et ensuite, votre esprit sera renouvelé et vous aurez envie, quand vous viendrez dans ce lieu de culte, non pas de rester assis, figé, à regarder Lise Martinez à gratter quelques cordes, mais vous aurez envie de dire « Seigneur, je te bénis, je t'aime, tu es pour moi tout ce qui est le plus important. » Ah, j'espère qu'avant que le Seigneur me dise « Laurent, tu vas ailleurs pour me servir », je verrai cela grouiller. Alléluia. Merci Seigneur. Il va vivre le miracle. Va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. On va prier quelques instants. Je vais demander à Frédéric de venir de suite. Et puis, on va pas lire la parole de Dieu pour la Sainte-Seine. Elle est déjà lue, prêchée. Quand je prêche avant, c'est pas la peine. Je demande aux frères pour la Sainte-Seine de s'approcher également. On va pas perdre de temps. Et puis ensuite, j'ai donné 10 minutes à Élise pour vous donner quelques mots de son témoignage. Ne partez pas, s'il vous plaît, c'est exceptionnel. Il y a des fois des cultes un peu exceptionnels. Voilà, gloire à Dieu. On va prier, on va prier. Je te rends grâce, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te suis profondément reconnaissant. Parce qu'encore ce matin, tu as dirigé comme tu as voulu, c'est toi le maître de toute manière de ces lieux et de nos cœurs. Je sais que des frères, des sœurs aspiraient peut-être à entendre ce message. D'autres, peut-être, ont été surpris. Ce que je souhaite, Seigneur, c'est de n'avoir choqué personne, mais que le message soit vraiment passé et puisse faire son œuvre. Maintenant, bien sûr, pendant que nous allons prendre la Sainte-Seine en mémoire de toi, pendant le moment des offrandes que nous avons mis à part pour l'annonce de l'Évangile dans cette région, et puis, Seigneur, entendre le témoignage de notre sœur qui va démontrer qu'elle a décidé, comme on peut le faire chacun d'entre nous, d'enlever un certain manteau et de te suivre sur la voie, sur le chemin, où il y a la vérité, bien sûr, mais pour l'amener à te servir en tant que missionnaire. Seigneur, on a besoin d'ouvriers agroyés. On a besoin d'hommes et de femmes spontanés dans la louange et dans l'adoration, dans la prière. On a besoin d'hommes et de femmes qui seront fidèles à cette Église. Je te prie pour ceux qui sont là ce matin, déjà, pour que, Seigneur, ça soit quelque chose qui résonne favorablement dans leur cœur. Et puis pour ceux qui n'ont pas été des nôtres ce matin pour des raisons de santé ou de travail, je te prie pour qu'il en soit ainsi également, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Oui, Seigneur, tu es notre berger. Tu es le berger de notre âme. Et c'est toi que nous voulons suivre. Bénis mes frères et sœurs. Bénis ces âmes qui te cherchent. Et que tu deviennes pour eux aussi leur berger, la vérité, le chemin qui conduit au Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu.